Première.
13h15, 14h30.
Un jour dans l'histoire.
Laurent de Hausset.
L'histoire d'Hollywood est celle d'un arrangement secret entre la liberté d'expression et l'ordre moral. C'est une histoire de lutte entre l'industrie du cinéma et les ligues de vertu, commentée maintenant par l'avocat, écrivain et prix Rossel, Alain Berenbaum, et notre très cher Nicolas Bogart.
La première,
13h15, 14h30,
un jour dans l'histoire.
Et cette histoire des relations entre le cinéma et la liberté d'expression nous a raconté dans Hollywood Confidential, Les égouts du paradis, un documentaire réalisé par Jérôme Corquiquian qui sera diffusé le 19 mai sur La Une dans l'émission de Dolly de Célis, hein, Retour aux sources. Il y a question, notamment Nicolas, et concrètement de l'histoire de la censure.
Oui, Laurent, il y a 100 ans naissait Hollywood. Vous n'étiez pas encore né, je pense.
À peine.
Non, Hollywood, la nouvelle Babylone, loin de son image glamour, la ville de tous les péchés, a choqué d'emblée les tenants de l'ordre moral. Alors, il a fallu, pour éviter la censure étatique et le boycott de cette industrie, créer d'emblée un code de conduite. Alors, c'est la première étape d'une histoire complexe, sulfureuse, mais fascinante d'Hollywood avec la censure, que nous commente l'avocat et cinéphile Alain Berenbaum.
Souvenez-vous qu'Hollywood est une industrie qui a été créée dans un endroit où il n'y avait rien. C'était Los Angeles, une terre inconnue, il n'y avait rien ici. Alors quand les gens d'Hollywood sont arrivés, ils ont commencé à inventer leur propre univers. Et à l'intérieur de cet univers, rien ne comptait à part ce qui se passait sur l'écran de cinéma. Ce qui se passait en dehors de l'écran était totalement sans importance. Donc, dès les premiers jours, tout type de comportement était acceptable.
Si vous voulez y penser en termes bibliques, Sodome et Gomorre, vous n'avez pas besoin de lire la Bible, parce que Sodome et Gomorre existent. C'est ici, à Hollywood.
Le cinéma suscite très vite, en fait, des polémiques, suscite des oppositions, notamment de la part des ligues chrétiennes, catholiques, presbytériennes, qui non seulement sont choquées par ce que l'on montre sur l'écran, car le cinéma muet est extraordinairement libre et donc on y voit des femmes nues, de la violence, de la drogue, de la prostitution. Bon. Et ce qui les choque également, il faut bien le dire, c'est l'existence même du cinéma. Parce que, et on le lit dans des écrits de cette époque-là, mais on le lit même dans la justification, on va en reparler, du projet de loi belge sur le contrôle des films en 1920, c'est contemporain. Dans les deux cas, les législateurs et les ligues en même temps disent que ce qui est dangereux, c'est d'aller au cinéma. Parce qu'il y a une promiscuité entre hommes et femmes, que c'est dans l'obscurité, que les gens se touchent. C'est très extraordinaire de relire ces textes-là, et je le répète, y compris les travaux du Parlement belge, qui sont extraordinairement critiques à l'égard de ce qui peut se passer dans les salles obscures, mon Dieu. Bon. Et donc, sous la pression de ces ligues, de ces associations très collé monté aux États-Unis, un certain nombre de municipalités, on est là dans les années 10, créent des commissions de censure ou confient, comme c'est le cas à New York, à la police le soin de décider si les projections d'un film doivent être arrêtées ou si elles peuvent se poursuivre. Bon. Finalement, un producteur de cinéma va saisir le tribunal sur base du premier amendement de la Constitution américaine qui garantit la liberté d'expression. Et malheureusement, puisque cette affaire ira jusqu'à la Cour suprême va décider qu'en fait, le cinéma n'est pas un art et donc n'est pas protégé par la liberté d'expression. C'est simplement un commerce. C'est aussi la première fois que les juristes se penche sur ce que c'est que le film. Jusqu'alors, les arts, c'était le livre, la musique, la peinture, et donc des arts réservés au fond à une certaine élite bourgeoise. Le cinéma, c'est le premier art populaire, le premier art où c'est le peuple qui le consomme. Les juges de la Cour suprême décident que, au fond, l'art du peuple n'est pas un art.
Là, on est en 1915, alors.
On est en 1915. Évidemment, le danger et la catastrophe de cette jurisprudence, c'est que cet arrêt va tenir une quarantaine d'années.
Hollywood va prendre les choses à bras-le-corps, c'est-à-dire qu'elle va elle-même gérer un code de censure interne pour éviter la création d'une agence fédérale qui vienne s'immiscer dans les affaires d'Hollywood. Ils vont confier cette tâche à un monsieur vertu, hein, on peut dire William Hayes, donc qui va venir éteindre l'incendie et créer le premier code pour écrire des films qui ne choquent personne.
Le cinéma, l'industrie du cinéma, estime que c'est la seule façon de protéger son business. Parce que tant que des commissions de censure se créent ainsi dans les différentes villes, dans les différents États, et il craignait évidemment qu'il se crée une commission de censure fédérale, le cinéma se trouvait dans une position impossible. Parce que fabriquer un film, ça coûte très cher. Et donc, si d'avance on ne sait pas si le film va ou non être interdit, comment assurer le rendement de son investissement. Et donc, c'est l'industrie du cinéma qui va s'associer, tous les producteurs vont s'associer au sein d'une association qui est aujourd'hui la MPA, la Motion Picture Association of America, et qui va elle-même décider des critères de censure ou de moralité du contenu des films produits par les différents studios. Et comme vous le disiez, ils vont confier effectivement à un avocat, M. Hayes, personnalité très safe, comme on dit en Belgique, la fabrication de ce code qui va être surveillé alors par un autre type qui s'appelle Joseph Breen. Joseph Breen qui va diriger cette espèce de commission de censure de 1934 jusqu'en 1954. C'est un code extraordinairement précis, mais qui a dû ravir Jacques Prévert, parce que ce code énumère, il y a des pages et des pages, énumère tout ce qui est interdit. En fait, si on lit ce code, pratiquement, on ne peut pas faire un film. Il ne peut pas y avoir la prostitution, il ne peut pas avoir de drogués, il ne peut pas avoir pratiquement de méchants. Enfin bon, il ne peut pas avoir de blasphème, il ne peut pas avoir d'atteinte au pouvoir politique. Bon, on ne peut rien faire et donc seul Walt Disney et encore semblait pouvoir échapper à ça. Donc les réalisateurs et les scénaristes de cinéma ont dû ruser et ils l'ont fait avec un talent fou pendant 40 ans pour échapper à ces interdits, les contourner et souvent les provoquer d'ailleurs. Mais c'est vrai que ces interdits existaient. Par exemple, un baiser à l'écran ne pouvait pas durer plus de 30 secondes. On devait couper après 30 secondes. Il est impensable de voir un homme et une femme dans un même lit. Donc, ils doivent être dans des lits jumeaux ou comme dans New York, Miami, Capra, quand ils sont sur la route et ils n'ont aucun endroit pour dormir, et ben, finalement, ils trouvent une baraque à moitié abandonnée et ils placent sur une corde à linge une couverture pour séparer l'endroit où dormira Claudette Colbert et Clark Gable.
Bien sûr, dans ce contexte, les seins provocants de Jane Russell, outrageusement mis en valeur sur les photos et les affiches du Banni, un western de Howard Hawks, engendre la colère des censeurs. Les clichés promotionnels et les posters du film sont interdits ou modifiés. Mais ce type de polémique reste exceptionnel. Globalement, le code de censure est bien accepté et appliqué par les faiseurs de films. I was willing to shoot Captain Rano and I'm willing to shoot you.
All right, Major, you asked for it. Un Frey Bogart ici, hein, qu'on a reconnu peut-être dans Casablanca de Michael Curtis, un film tourné en 1946, que l'on retrouve dans ce documentaire Hollywood Confidential de Jérôme Corquiquian, Les égouts du paradis. Alors Nicolas, pour éviter le boycott de films jugés trop sexués ou violents, on l'a compris, l'industrie du cinéma s'impose un code de conduite très rigoureux, mais c'est un code qui va être rattrapé par la réalité au fond.
Oui, parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, Laurent, les choses vont changer. La guerre a changé les hommes et entamé leur foi dans le rêve américain. Les hommes sont partis combattre le racisme et le fascisme en Europe, mais de retour à la maison, aux USA, le racisme, la ségrégation et l'autoritarisme de la lutte anticommuniste sont aussi présents. Le cinéma va être imprégné de ce paradoxe saisissant. Alain Berenbaum nous en explique les dommages collatéraux.
De nombreux films d'après-guerre montre que le désenchantement et l'amertume prennent le pas sur le sentiment de victoire. Dans « Jusqu'à la fin des temps », les guerriers démobilisés réalisent que s'ils ont combattu le fascisme et le nazisme outre-mer, l'intolérance et le racisme gangrènent également la société américaine.
What does that mean? No Catholics, Jews or Negroes.
On découvre que dans la société américaine, il y a des Noirs. Jusqu'alors, on ne les montrait pratiquement pas au cinéma, sinon des serviteurs qui, comme dans Autant emporte le vent, chantonnent gentiment en apportant les boissons au maître. Mais à partir de là, et surtout dans les années 50, vont apparaître des films dans lesquels blancs et noirs vont cohabiter, comme ils, tout simplement, ils cohabitent dans la société. C'est-à-dire, on regarde la société. À partir de la fin des années 40, se développe un cinéma beaucoup plus social, beaucoup plus en prise avec la société. Pour la première fois d'ailleurs, grâce à l'évolution aussi de la technique des caméras, tournées dans les rues, dans des véritables maisons. Et donc, à partir de là, on voit la vraie vie. C'est toute cette génération d'après-guerre avec Elia Kazan, Dmitrik, qui vont tourner des films dans lesquels on voit des Noirs qui sont l'égal des Blancs. Pas encore des femmes blanches avec des hommes noirs, ça viendra une dizaine d'années plus tard, notamment dans les films de Otto Preminger.
Otto Preminger, qui est au centre, peut-être pas d'un scandale, mais en tout cas d'un événement au sein de la société cinématographique américaine, avec L'Homme au bras d'or, avec Frank Sinatra dans le rôle principal, qui incarne un toxicomane, gros sujet aux États-Unis s'il en est, où on voit effectivement Frank Sinatra dans des périodes de manque, on voit Frank Sinatra qui s'injecte de l'héroïne. Alors évidemment, on contourne les images, on fait des gros plans sur le visage, mais c'est une thématique questionnante. Dans le documentaire qui est montré ici, un entretien assez saisissant entre Otto Preminger et le chef du studio d'Hollywood qui produit le film, où il devient sur la nécessité ou non de montrer ce genre de scène aux enfants, et ils s'accordent pour dire que oui, les enfants doivent savoir ce qui se passe au sein de la société américaine.
C'est le prétexte évidemment que trouvent chaque fois les réalisateurs pour justifier d'aller plus loin dans l'audace sur le plan des sujets et parfois de l'image, c'est que c'est une leçon pour la jeunesse. Bon, ça sera la même chose avec Blackboard Jungle, d'ailleurs, qui est un film sur les voyous. On est à la fin des années 50. Richard Brooks, avec Glenn Ford, c'est aussi un film dans lequel on voit de véritables voyous casser la gueule d'autres bandes et pour purement violence pour violence. Et donc là aussi, comme dans L'Homme au bras d'or, le réalisateur, et chaque fois, vous voyez, c'est des grands réalisateurs, explique qu'ils le font parce que ce sera une très bonne leçon pour la jeunesse et qu'en voyant ça sur l'écran, ils ne le feront pas dans la réalité. Bon, c'est évidemment un magnifique prétexte pour ces réalisateurs de montrer la vraie vie américaine.
Ces films-là vont être accusés, en tout cas Blackboard Jungle, vont être accusés d'être évidemment immoral, licencieux, obscène, mais de remettre en question le modèle de vie américain, l'American Way of Life. Alors c'est une accusation qui reviendra dans un autre contexte, celui-là lié à la guerre froide, c'est le McCarthyisme, où une série de personnalités influentes aussi, importantes, seront accusées de sympathie communiste et donc d'anti-américanisme. Ça va faire des dégâts considérables au sein d'Hollywood.
Oui, parce que une fois de plus, la MPA, la profession, qui avait déjà réglementé les mœurs, comme on vient de le dire, va également réglementer la vie politique des membres de la profession. Nous sommes à la fin des années 40, naît aux États-Unis notamment sous l'impulsion d'un sénateur qui s'appelle Joseph McCarthy et de ses assistants, dont un certain Richard Nixon, lui-même d'ailleurs entouré d'un certain nombre, il faut dire, de comédiens et d'artistes, notamment Ronald Reagan et John Wayne. Tous ces gens vont décider que il faut absolument, de manière générale, extirper le virus communiste de la société américaine. Il y a une véritable paranoïa. La société américaine est pourrie de l'intérieur par d'infiltration des communistes. Bon, on a bien vu, bien des années plus tard, lorsqu'on a fait le bilan de ça, qu'en réalité le Parti communiste, le nombre de membres du Parti communiste américain était dérisoire et qu'il y avait plus de membres du FBI membres du Parti communiste pour les infiltrer que de véritables membres militants sympathisants. Et donc, ce McCarthy va se fabriquer, avec Nixon d'ailleurs, vont se fabriquer une grande réputation politique en faisant ainsi la chasse aux sorcières, comme on disait. Et donc, il y a un certain nombre de grands cinéastes qui vont passer à la casserole, dont certains, d'ailleurs, vont aller en prison, comme Edward Mitrick, comme Biberman, ou des écrivains très proches du cinéma, comme Howard Fast. Et donc, tous ces gens vont aller en tôle. Ils vont être condamnés à des mois et des mois de prison pour sympathie communiste. Et surtout, ça, c'est le plus grave, la profession prend le relais. Et Hollywood interdit de travailler avec ces gens-là. Donc il y a une liste noire. Tous ces grands écrivains de cinéma ou ces cinéastes ne vont plus pouvoir travailler. Certains vont ruser en travaillant sous pseudo. Il y a un très beau film d'ailleurs qui raconte ça, Le Prête-nom de Martin Ritt, avec Woody Allen qui joue le rôle du prête-nom. Et aussi récemment est sorti un film qui retrace la vie d'une de ces victimes de macartisme, qui est Dalton Trumbo, très beau film d'ailleurs, Trumbo, et qui raconte comment Trumbo a dû travailler comme ça dans l'ombre jusqu'à ce que Otto Preminger, de nouveau Otto Preminger, décide de remettre son nom au générique.
Les commissions d'enquête traquent donc publiquement ceux qui profitent du show business pour répandre des idées anti-américaines. C'est la chasse aux sorcières.
Are you a member of the Communist Party? Or have you ever been a member of the Communist Party?
It's unfortunate and tragic that I have to teach this committee the basic principles of Americanism.
Voilà, la commission McCarthy, ici, donc extrait de ce film Hollywood Confidential, cette audition de Dalton Trumbo, Nicolas, qui est un scénariste star d'Hollywood à l'époque, victime de la chasse aux sorcières. Cette commission sur les activités anti-américaines va faire beaucoup de dégâts.
Laurent, la commission McCarthy va décimer les rangs des scénaristes, des acteurs, des réalisateurs, entre autres, mais aussi des hommes et des femmes de télévision, alors que la Cour suprême, justement en 1954, décide que le cinéma sera finalement protégé par le premier amendement de la Constitution, qui garantit la liberté d'expression. Les cinéastes n'avaient pas attendu cet arrêt pour contourner le